boomerang avec Dany Briand ce matin. C'est parti. Être quelqu'un d'autre, mais pas n'importe qui, être celui ou celle qu'on adule depuis ses propres parents jusqu'au grand frère ou la grande sœur dont on imite les expressions faciales, la star des bacs à sable, le caïd de l'école, le premier de la classe, le modèle, qu'il s'agisse du professeur pour le pire ou le meilleur, ou plus tard de l'artiste, être quelqu'un d'autre et commencer par l'imiter. Ses gestes, sa dégaine, sa façon de parler, c'est sans doute inconscient, c'est comme ça qu'on apprend. Vous êtes peut-être comme moi fasciné par l'existence de ces neurones miroirs, découvert chez le singe dans les années 90, qui permettent de se voir agir à la place de l'autre, comme dans un miroir, qui pourrait être la cause de notre don pour l'imitation et pour un certain nombre de comportements sociaux, depuis le bâillement jusqu'à la maîtrise du langage, depuis le geste le plus primaire jusqu'à un nombre incalculable d'apprentissages. On commence par imiter. Il suffit que quelqu'un réalise une action devant nous pour qu'on en projette la représentation et qu'on les réalise en partie, ces actions. Pour le grand metteur en scène Peter Brook, qui intervenait dans cette étude de référence en neurosciences, avec la découverte de ces cellules, on commence à comprendre ce que le théâtre sait depuis toujours. La résonance entre ce qui se passe sur n'importe quelle scène et ce qui se passe chez le spectateur. La possibilité, un instant, d'être quelqu'un d'autre, par le simple fait de le regarder. Ça vous est toutes et tous déjà arrivé.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. En quels autres mon invité d'aujourd'hui s'est-il rêvé? Crooner éternel depuis ses débuts, il y a 30 ans, il rend hommage à une certaine chanson française, revisitant à l'envi sa passion pour le swing, le blues, le rock et les sonorités latines. La semaine dernière paraissait le deuxième volume de son disque dédié à Charles Aznavour, un disque de duo où se croisent Ibrahim Malouf, Florent Pagny, Patrick Bruel, Angoune, Chimène Badi et beaucoup d'autres. Bonjour Dany Briand.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci à vous.
Ce matin, pourquoi est-ce qu'à un moment donné de sa vie, on veut devenir quelqu'un d'autre? On essaye d'être quelqu'un d'autre.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui allument chez vous un désir. Un désir, vous savez pas pourquoi, peut-être parce qu'ils disent quelque chose que vous n'arrivez pas à dire d'une manière précise, donc eux ils le disent d'une manière lucide et affirmée, et donc c'est vrai que moi j'ai comme vous disiez en préambule, j'aimais les crooners.
Oui.
J'aimais les crooners, mais je crois que c'est parce qu'en fait c'était les idoles de mon père.
Et vous vous êtes projeté très tôt dans la figure de Dean Martin,
oui.
Pourquoi lui?
Bien parce que je le trouvais, bon moi j'étais adolescent, j'étais pas terrible, et donc...
non,
c'est vrai, comme tous les adolescents, on n'était pas au top.
C'est vrai que c'est un âge compliqué. Ouais.
D'ailleurs, le preuve c'est que le baromètre, c'était quand même la séduction et il y avait personne à l'époque. À l'époque. Hein. Et donc Dean Martin, pour moi, c'était la synthèse de tout. Cette espèce de décontraction, de nonchalance. En italien, on dit la lontananza, c'est le fait d'être très lointain comme ça, d'avoir un sourire. Et en même temps, quand il chante, on est aux anges. Alors, ça a été mon modèle. Je me suis habillé comme lui, je me suis coiffé comme lui et j'ai voulu chanter comme lui.
Et c'était quelle coiffure?
Bah, c'est un coiffeur qui était très spécialisé dans les années 80, rue Championnet, qui faisait toutes les coupes des années 40 et 50, des coupes de Fernandel, de Jean Gamin, c'était sa spécialité. Donc lui, c'était une coupe un peu, il y avait une petite banane, mais c'était pas encore Elvis, c'était juste avant Elvis. Et comme ça, mais c'était très masculin.
Et ça a changé du jour au lendemain, vous a regardé différemment?
Bah, j'ai surtout utilisé cette allure sur scène, parce que je faut dire que j'ai commencé très tôt dans les cabarets, quand ça existait encore. Je dois être un dédaigneur chanteur de cabaret, je sais plus si ça existe aujourd'hui. En tout cas, c'était au Quartier Latin. Et c'est vrai que ça donnait de la force.
Parce que musicalement, qu'est-ce qu'il incarnait, Dean Martin?
Bah, c'était l'âge d'or un peu de l'Amérique. Vous savez, dans les années 50, l'Amérique était triomphante, parce qu'elle avait libéré le monde entier. Et la musique portait ses valeurs de triomphe, de libération, de liberté, de séduction. C'est toute l'époque hollywoodienne avec laquelle on a grandi. Et c'est des mecs qui, je sais pas, ça faisait rêver, le rêve.
Et alors, quels airs, quelles mélodies vous reviennent tout de suite en tête quand vous pensez à Dean Martin?
When Baraba Rebbe starts to play, dance with me, make me sway. C'est vachement dans les graves.
Sway.
Ouais, c'est sway.
Sway repris par Diams.
Oui, c'est bien sûr.
Sans s'en être rendu compte.
Voilà, c'est éternel, les chansons sont éternelles.
Au fond, vous projetez dans ce personnage, Dean Martin, en quoi ça vous a aidé à vous trouver, Dany Briand, à trouver celui que vous vouliez être, y compris sur scène d'ailleurs?
Eh bien, parce que, comme je vous disais, dans la vie, j'étais pas très... Je manquais un peu de confiance en moi, d'assurance, et je trouvais qu'en se déguisant, en s'habillant, en fait, ça donnait... On rentrait dans un personnage. Et j'ai très vite compris que quand on monte sur scène, en fait, on oublie celui qu'on est dans la vie, et on peut être quelqu'un d'autre.
Alors, quel personnage est-ce que c'était, Dany Briand?
J'avais envie d'être tout ce que je n'étais pas. Dean Martin, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui est séduisant, qui plaît aux femmes, qui a de l'humour. L'humour, c'est très important. Parce que l'humour, c'est, vous savez, quand vous avez la maîtrise d'un art comme Dean Martin, comme Sinatra, si vous mettez pas d'humour, on peut vite penser que vous avez beaucoup d'ego.
Donc un peu d'autodérision.
Voilà, l'autodérision, c'est ça.
Quand est-ce qu'il est né, ce personnage de Danny Boyle? Vous vous souvenez?
Oui, il est né quand je suis arrivé au cabaret Les Trois Maillets. Et que, évidemment, dans la vie, je m'habille en jean et en, comme tous les jeunes de mon âge, en blouson. Et puis, en regardant donc les films, certains l'aiment chaud. Ça, c'était pas Dean Martin, mais Embrasse-moi idiot. Sam, là, vous vous souvenez quand il arrive dans la ville, là, et puis il drague la fille qui est du mec qui veut lui placer une chanson. Et quand j'ai étudié ce personnage, bah, il me faisait rêver. Et puis, il a un côté aussi européen. Parce que Dean Martin, comme tous ces gens, les Sinatra, c'est des Italo-Américains. C'est pas total, ils sont pas totalement américains. Ils gardent quand même le côté de l'Europe, de l'élégance. Voilà. Et donc, moi, comme je suis très attiré par l'Europe, par l'Italie, par la Méditerranée, ce personnage faisait un peu la fusion entre l'Europe et l'Amérique.
Alors, vous l'avez développé, ce personnage, Danny Brion, vous l'avez promené un peu partout. Et puis, un jour, au début des années 90, bah, il y a eu ça.
J'ai perdu la tête. Que j'ai vu Suzette, je perds la raison chaque fois que je vois Suzon. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette, je perds la raison chaque fois que je vois Suzon.
Et puis il y a eu ça aussi comme un moment.
Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi.
Et ça, Danny, pour le plaisir. La liste serait évidemment très très longue. Danny Brion, quand on écoute votre musique, on sent à quel point vous êtes imprégné de la musique du passé. Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous dans l'épicerie de la famille Cohen, puisque c'est votre nom de famille?
Ouais. Bon, on écoutait tout ça. Voilà. Moi, c'est très bizarre parce que je fais partie d'une génération, c'est assez rare, qui aimait la musique de leurs parents. Parce que normalement, les jeunes, ils détestent la musique de leurs parents.
C'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Jamais vous ne vous êtes rebellé contre la musique de vos parents?
Je me suis rebellé contre certaines choses, mais pas contre la musique. Parce que mon père adorait donc les crooners, il adorait l'opéra, il adorait Elvis, il adorait Aznavour, et il adorait... Ma mère, c'était plutôt ma mère Aznavour, mais j'ai grandi avec toutes ces musiques-là. Et c'est fou parce que quand j'ai voulu faire de la musique, je n'ai pas fait l'inverse, je n'ai pas fait du rock pour rentrer en rébellion. Au contraire, j'étais dans cet ADN de mes parents.
Est-ce que vous nous dites à demi-mot que vos enfants se sont rebellés contre votre musique, Danny Brion?
Oui, mes enfants, oui, par exemple, c'est vrai que mes enfants, ils préfèrent des choses plus transgressives, plus urbaines, ça c'est vrai.
Transmettre un héritage musical, faire vivre à travers votre musique des artistes comme Dean Martin, mais aussi comme Elvis ou comme Aznavour, quel enjeu est-ce que c'est pour vous, encore aujourd'hui?
Bah, ces gens, pour moi, ça a été des passeurs, c'est-à-dire qu'ils portaient une tradition. Je vous dis, la grande chanson italienne, le bel canto et le jazz pour Dean Martin. Aznavour, c'est toute la chanson d'Edith Piaf, la chanson, le crooning un peu américain. Et ce sont des gens qui sont des passeurs. Nous, on doit continuer, je pense, à passer une musique, par exemple, qu'on n'entende plus. Je trouve que ce que vous venez de passer, on n'entend pas ça sur les radios.
Non.
Ça passe pas.
Et tout le monde connaît Suzette Parker. Hein.
Et tout le monde connaît Suzette parce qu'à l'époque, ça passait. C'était il y a 30 ans.
Bon. Moi, j'ai vérifié auprès de l'équipe de Bourbon, oui. C'est-à-dire qu'on connaît même les paroles. Oui, c'est vrai. C'est vous dire. En quoi est-ce qu'il a changé la chanson française, Charles Aznavour? Qu'est-ce qu'il a apporté de radicalement différent et qu'on entend encore aujourd'hui? Parce que votre album lui est dédié.
Oui. Non, Charles Aznavour, je crois que c'est un révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il arrivait dans la France des années 50, où c'était les grandes voix, les Luis Mariano, ça, lui, il arrivait avec une voix très écorchée, qui était près du micro. Il parlait de nos souffrances, il parlait des petits, des gens qui n'ont pas de voix, il parlait des artistes ratés, il parlait de l'Arménie, il parlait de la misère qui serait moins pénible au soleil. Il a parlé de l'homosexualité, des sujets qu'on n'abordait pas à l'époque. Et ça, c'était une révolution.
C'était une façon d'aborder le texte et la langue aussi. Vous dites que c'est grâce à lui que vous avez compris que la langue française pouvait swinguer.
Oui, ça a été ma rencontre avec la chanson française. C'est une chanson, c'est la première chanson d'Aznavour qui s'appelle Le Feutre Topé. C'est une chanson de 1947. À l'époque, il chantait en duo avec Pierre Roche. Et à la libération de Paris, toute la variété française était imprégnée de jazz, hein, à cause des Américains. Et ben, quand j'ai entendu cette chanson, Le Feutre Topé, ou Pour faire une jam aussi, c'est un peu dans l'esprit, je me suis dit, je savais pas qu'on pouvait faire swinguer le français. Parce que dans ma tête, le swing, c'est Dean Martin, c'est Sinatra, c'est
américain. Alors, comment il faisait concrètement pour faire swinguer la langue?
Et ben, il avait un rythme en lui énorme. Il avait un sens du rythme. Aznavour, on l'a connu moins vers la fin parce que c'était plus des balades. Mais dans les années 50 ou 60, c'était formidable, c'était très swing.
C'est une façon de faire sonner les mots, en fait.
C'est une façon de se déplacer sur la mesure. Et de ne jamais être dans le temps, vous voyez, c'est ça le swing en fait. C'est très spécial. Je peux vous donner un exemple pour effet, si vous comprendre. Par exemple, une mélodie française comme Au clair de la lune. Si vous la faites, vous la chantez sur le temps, c'est Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Voilà, ça c'est sur le temps. Ouais. Et si vous vous déplacez, et ça a été une révolution, c'est Au clair de la lune. Mon ami Pierrot, voilà. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? On se déplace.
Je suis trop content.
Sinon, on peut pas comprendre ce que c'est que le swing si on donne pas des exemples comme ça.
Alors, Bruno, tu viens
faire une jam?
Tu viens faire une jam ou pas?
À fond.
Allez.
Moi, certains soirs, quand je m'ennuie, je connais un coin dans Paris où on se rencontre entre amis. Chacun prenant son instrument, qu'il soit à corde ou bien à vent, laisse parler son tempérament pour faire une jam.
Comme je ne suis pas musicien, mais que vraiment j'aime ça,
je rythme en frappant dans mes mains chants.
En bras de chemise, parce qu'on a chaud, on se donne à fond les yeux mi-clos, car plus ça chauffe et mieux ça vaut pour faire une jam.
Roule, la basse craque, le piano chante et les cuivres attaquent. De toutes parts, les notes claquent pour faire une jam.
Quand on a le jazz dans le sang et jusqu'au bout des doigts,
et que l'on est pris 100%, on chante.
Et ben voilà.
Dany Briand, invité de Boomerang ce matin pour parler d'Aznavour, mais aussi de voix quand même. Quel instrument est-ce que c'est pour vous, la voix?
La voix, c'est l'instrument qui parle tout de suite au cœur des gens. Il y a des instruments qui parlent au cœur aussi. Je pense que le saxophone touche le cœur des gens, le violon. Mais la voix humaine, surtout s'il y a des mots, et les mots s'adressent à l'esprit. Alors là, c'est le sommet, parce que la voix, c'est quand même... je sais que, par exemple, quand j'étais petit, la voix de mon père, c'était quelque chose. Il arrivait à m'endormir. La voix de ma mère, je savais que c'était plus la sévérité. Donc il y a des fréquences dans la voix, et il y a des voix comme ça qui vous touchent tout de suite. Et la voix d'Aznavour m'a fait ça très tôt.
Et quand est-ce que vous avez su que vous saviez chanter, Dany?
Bien, dans le bateau qui m'amenait de Tunis à Marseille, il paraît que je chantais déjà. J'avais un an, il paraît que j'arrêtais pas de chanter.
Vous comme chantiez quoi?
Des trucs de l'époque.
Ah non, c'est pas Suzette. Hein.
Non, à l'époque, c'était pas ça.
Vous nous parliez de Dean Martin tout à l'heure, les crooners. Quels modèles vocaux est-ce qu'ils ont été pour vous? Parce qu'on voit bien que vous positionnez votre voix d'une certaine façon.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je viens d'une génération qui était très pop, très rock. Les Rolling Stones, les Beatles, voilà, des gens qui ont beaucoup d'énergie et qui crient. Et le crooner, en fait, c'est juste avant, c'est quelqu'un qui caresse l'oreille. Vous voyez, d'abord, crooner, tout croon, ça veut dire miauler. C'est le micro, c'est l'invention du micro qui a permis ça.
Alors comment on fait pour réussir à chanter comme un crooner? Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette approche du chant? Vous disiez tout à l'heure, chanter tout près du micro,
voilà,
c'est ça?
Tout près du micro, et puis surtout, essayer de trouver des graves. Parce que les graves, ça caresse l'oreille. Et je pense que les crooners, en fait, ils avaient une fonction, c'est qu'on était pendant la guerre. Vous voyez Sinatra, pendant la guerre, les gens étaient au front, etc. Et ben la voix de Sinatra calmait. Ou Bing Crosby, ça calmait les gens. C'était comme une berceuse.
Vous les aviez, les graves, vous?
Alors au début, si on est temps, je les avais pas. Ils sont arrivés après. Mais j'avais le style, c'est-à-dire que j'aimais le swing, j'aimais les big bands, j'aimais ça. Mais j'avais pas encore la voix quand j'étais très jeune.
Comment ça se travaille, un grave?
Alors, ça se travaille avec les années. C'est-à-dire que je crois que c'est le mûrissement, en fait. La voix, avec les années, devient de plus en plus grave. Ou alors, sinon, il y en a qui fument pour l'avoir aussi.
Ouais, bon. Quand est-ce que vous avez su qu'on pouvait gagner sa vie avec une voix?
Alors la première fois que j'ai chanté, c'était sur une terrasse de café à Saint-Germain. J'étais venu pour étudier la médecine. Et puis je réussissais pas beaucoup. Et un copain m'a dit, écoute, je sais que tu chantes un peu, viens, on va jouer sur les terrasses de café. Et là, j'ai vu que peut-être l'époque, c'est plus la même aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait une espèce de joie de vivre à Saint-Germain. Il y avait le drugstore, il y avait beaucoup de cafés. Et donc il y avait une écoute sur les terrasses. Les gens écoutaient les gens qui passaient. À l'ancienne, quoi. Et donc, quand j'ai vu que les gens m'écoutaient, parce que moi, je savais pas, je me suis dit, oulala, il y a peut-être quelque chose à faire, là.
Et vous ont donné des sous, je suppose,
à la fin. L'argent,
dans la casquette.
Beaucoup. J'avais des pièces de monnaie, d'ailleurs.
Mais vous n'aviez pas de casquette, puisque vous aviez déjà la coupe de cheveux.
je prenais le cendrier pour passer avec le truc. Mais ça, j'avais honte de faire ça. Hein. Ça, j'avais un peu honte. Hein. Mais bon, j'avais pas de job.
C'est intéressant, la honte. Comment est-ce qu'ils ont réagi, vos parents, quand vous leur avez dit que vous vouliez devenir chanteur?
Alors, je l'ai pas dit. Pendant 3-4 ans, je l'ai pas dit.
Pourquoi ?
Parce que je viens d'une famille un peu séfarade, qui est assez basée sur la réussite sociale, sur machin. Et tout d'un coup, mes parents, pensant que j'étais en médecine, me voient. En plus, ma mère, je lui donnais mon linge, donc elle voyait. J'avais des poches, vous savez, avec les pièces de l'époque, 55, j'avais plein de pièces. Et donc, ça déformait mes poches. Elle se demandait pourquoi mes poches étaient aussi larges ou trouées. Et pendant 3 ans, je l'ai pas dit.
Il rêvait de quoi pour vous ?
Bah, ils rêvaient que je sois médecin. Et je suis allé en médecine pour eux, d'ailleurs, pour leur faire plaisir.
C'est une famille d'exilés aussi, c'est important.
Oui, bien sûr, oui. C'est une famille qui a été chassée, donc, pour toujours des petits problèmes politiques, voilà, par un petit nom, mais je veux pas revenir là-dessus. Mais bon, ils sont partis, ils ont quitté une espèce de paradis où ils étaient là depuis des siècles. Et donc, pour eux, l'école, l'étude, voilà, l'apprentissage, la connaissance, c'était primordial. Donc, ils avaient tout misé là-dessus.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est en quoi l'exil de votre famille, son départ précipité de Tunisie, où vous êtes né d'ailleurs, vous a profondément marqué tout au long de votre vie, Danny Briand.
Bah, c'est-à-dire que ça a donné une sorte de nostalgie. Vous savez, la nostalgie, c'est le paradis perdu. Et moi, j'ai grandi avec ça. Ma mère, elle se rappelle toujours de la Méditerranée, il faisait toujours beau, etc. Et moi, ça a créé chez moi une espèce de mélancolie. Et si vous voulez, pour transcender cette noirceur, peut-être ce blues, ce cafard, je me suis mis à chanter. Et en chantant, en fait, j'ai pu transcender cette mélancolie. Et j'ai eu envie de chanter des chansons gaies.
Parce qu'on n'en parlait pas, en fait, de l'exil, de cette arrivée en France.
Non,
jamais.
Ça parlait pas, non.
Est-ce qu'ils s'en sont remis, un jour?
Oui, bien sûr. Mais moi, j'étais très content, moi, en revanche, d'être là. Parce que j'ai découvert le français à l'école, j'ai adoré la culture française, j'ai eu envie de faire de la chanson, du théâtre. Je trouvais que c'était une chance énorme.
Mais diriez-vous qu'on hérite des blessures de nos propres parents?
Oui, peut-être même de nos grands-parents. Je vais vous dire un truc, je pense même, parce que l'autre fois, sur le disque, j'ai entendu Nikos qui chantait en grec.
Ouais.
Sur le disque, Nikos Aliagas. Bon.
Alors connu,
bien,
ouais.
Ah bon, on le connaît. Eh bien, quand je l'écoute, j'entends tous ses ancêtres dans sa voix. Vous voyez, même dans la voix, il y a tous nos ancêtres qui sont là aussi. Comme s'ils avaient déposé un gène, quelque chose. Et je pense que dans ma voix, il y a mon grand-père, il y a les espoirs de mes parents. Il y a quelque chose dans la voix qui porte, en fait, le passé.
Mais c'est beau ce que vous dites, Danny Briand, parce qu'en même temps, on répare aussi, proposer une musique presque essentiellement tournée vers la joie, vers une certaine gaieté, vers l'espoir. C'est une façon de réparer, de répondre à la mélancolie.
Oui, c'est la joie en plus c'est un risque parce que c'est une résistance à la lourdeur de l'existence, la joie. On n'est pas joyeux naturellement, en fait, il faut se battre pour l'être. Et moi, j'ai pris ça comme mission d'essayer de. Je vois dans mes spectacles quand j'arrive, les gens applaudissent comme ça et une heure et demie après, ils sautent en l'air, parce que j'ai fait monter la joie.
Ça marche pour vous aussi?
Oui, pour moi aussi. Pour moi aussi, j'écoute certaines musiques et je crois que ce qui fait le plus monter la joie, je crois que c'est la musique et l'amour.
On va reparler évidemment de tout cela juste après un titre de votre disque hommage à Charles Aznavour. Nous nous reverrons un jour ou l'autre en duo avec Florent Pagny. Vous êtes sur France Inter avec Danny Briand. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Si vous y tenez autant que moi. Prenons rendez-vous un jour n'importe où. Je promets que j'y serai sans faute. À Noël comme à la Pentecôte. À Rio de Janeiro ou à Moscou. Plus on est de fous, plus on rit de tout. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. J'y tiens beaucoup. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Le monde
profitons-en. Si votre chemin passe par le mien, ma roulotte croisera la vôtre. Comme il ne faut pas tenter le diable en disant à la prochaine fois, faites comme moi en croisant les doigts. Ou si vous trouvez ça préférable, touchons du bois. Surtout si on peut l'aider un peu. Une étoile passe et je fais un vœu. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, si Dieu le veut.
France Inter, Boomerang.
En réalité, on est quelque part entre Elvis et Enrico. Il a la dent étincelante, l'œil méditerranéen, le cheveu bien peigné, les épaules bien carrées. On l'imagine dans les années 50, sur une scène de Vegas, à mettre le feu au public à coups de déhanchés bien placés, de regards langoureux et de riffs endiablés, avec sa chemise noire qu'il porte ce matin, le chanteur et musicien Danny Briand, invité de Boomerang pour parler de Charles Aznavour, auquel vous rendez hommage, on l'a compris, à travers ce disque de duo. Aznavour, quand est-ce que vous l'avez vu pour la première fois sur scène? Vous vous souvenez?
Oui, je l'ai vu à 11 ans. Ma mère était à l'Olympia avec mon père. Et mon père était coincé dans un train, il y avait une grève, et elle m'a dit de venir avec elle.
Un hasard.
Un hasard, ouais. Et là, je suis allé à 11 ans, c'est les années 70, et j'ai eu un choc. Vous savez, le choc quand on lit un livre, ou moi, c'était ce concert. Voilà, qui a changé ma vie, parce que ses mots, sa voix, sa musique m'a bouleversé. Alors j'étais un enfant, peut-être qu'on pensait que je n'étais pas encore sensible à la poésie de Charles, mais comme il parle avec des mots simples, très simples, de choses profondes, ça m'a déjà touché.
Et comment il était sur scène? Comment il occupait l'espace?
Alors il était à l'apogée de sa gloire, et il faut savoir que ce type, c'est un mec de musical, il a commencé sur scène, il avait 9 ans, et c'est le charisme, c'est la lumière, c'est-à-dire que vous êtes là, vous pouvez pas faire autrement que de le regarder, et en plus ce qu'il apporte, contrairement en plus des crooners comme Sinatra ou Dean Martin, où le texte n'est pas forcément important, ce qui compte c'est l'évasion, c'est la détente, Aznavour a des textes, et ça, les textes, ça vous remue quand vous les écoutez.
Alors vous avez commencé à reprendre ces chansons très tôt, bien avant de composer les vôtres. Quel titre du grand Charles est-ce que vous repreniez?
Alors moi j'ai commencé avec le Feutre Topé, comme je disais tout à l'heure. C'est la chanson qui m'a fait prendre conscience qu'on pouvait faire du swing en français, mais je chantais Hier Encore. J'avais 18 ans, mais je chantais Hier Encore.
C'est quand même l'Aznavour des débuts.
Ah oui, c'est vrai qu'Aznavour il a plusieurs périodes.
La période cabaret, vous en parliez tout
voilà,
à l'heure.
Et il y avait des chansons qui étaient adaptées au cabaret, c'est vrai. Et puis aussi, je crois qu'il a eu, comme dans toute vie, il y a un âge d'or. Pour moi, Aznavour, c'est 50, 60, 70. Et là, c'est, pour moi, je crois qu'il a fait des chefs-d'œuvre.
Et vous savez, ça me passionne, cette histoire d'artiste de cabaret. Qu'est-ce que ça implique?
Alors, le cabaret, c'est, contrairement à, par exemple, là, pardon, je fais des salles de spectacle, le public est très loin. Il faut que mon show soit déjà rodé. Or, au cabaret, les gens sont sur vos genoux.
Oui.
Vous avez leurs yeux. Et donc, tout ce que vous faites, vous voyez la réaction sur eux. C'est comme ils sont co-créateurs de votre spectacle. Vous voyez, vous savez pas ce que vous allez faire. Vous savez pas si un type va vous balancer un truc dans le visage, s'il va draguer une fille, parce que tout est possible. Et l'exercice est d'arriver à capter leur attention. Et là, vous travaillez, c'est ce qu'on peut appeler le charisme.
Et d'accepter que le public réponde aussi.
Oui, le public répond. Et puis je vous dis, donc, le fait de cette proximité, en fait, c'est une école fabuleuse. Parce que vous savez ce qui marche. Après, vous savez ce qui marche pas. Vous savez que vous pouvez pas que chanter, qu'il faut aussi parler aux gens, il faut leur donner de l'humour. C'est la meilleure école.
Vous l'avez rencontré en personne, Charles Aznavour?
Bien sûr. Quelques années après mes premiers succès, j'étais au Festival de Montreux. On faisait un hommage à Charles Trenet. Et j'avais repris le piano de la plage et Fidèle, accompagné par George Duke. Je me rappelle toujours de ce jour-là. Et au premier rang, il y avait Charles Trenet et Charles Aznavour.
La classe.
Ah, et les deux Charles de la chanson. Et après, Charles est venu dans ma loge. Il m'a félicité parce qu'il trouvait que j'avais un... Il m'avait repéré déjà. Il m'a dit, ouais, j'aime bien votre style un peu vintage et tout ça. Mais il faudra maintenant écrire des textes. Je me souviens, son premier conseil. Maintenant, il faut des textes.
Parce qu'il n'était pas avare de conseils. Il avait donné des conseils à Amel Bent également, qui nous en parlait récemment. Il avait dit à Amel quelque chose qui, je pense, vous parlera aussi. Il avait dit de ne pas oublier où était sa maison. C'est-à-dire de ne pas se trahir musicalement. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça?
Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. C'est-à-dire que le succès ne doit pas infléchir, en fait, le mouvement premier. Pourquoi vous avez fait ça? Par exemple, je pense qu'il y a des chanteurs, au bout d'un moment, qui veulent conserver le succès et qui formatent leurs chansons pour passer dans tel produit, telle radio. Ça, je le sais. Et moi, je m'en suis toujours moqué.
Vous voulez dire que c'est un art de ne pas céder à la mode, en fait?
C'est la vie, ça s'appelle l'intégrité. C'est une valeur, c'est ne pas faire de concessions, c'est de rester fidèle à soi-même. Et c'est comme ça, je pense, que le public, en fait, vous reste fidèle. C'est quand vous êtes fidèle à vous-même.
Le regard des autres, Danny Brion, ça représente quoi pour vous?
Ça peut être une prison, le regard de l'autre, parce qu'on peut se regarder à travers l'autre et des fois c'est pas toujours bon.
Peut être violent.
Ouais, ça peut être violent. Écoutez, moi j'ai une conception, c'est que je m'en fous, en fait. J'en ai rien à foutre.
Oui, enfin vous dites ça juste après avoir dit que ça a pu être violent quand même.
Oui, c'est un peu violent, mais si vous voulez, comme c'est, les gens sont toujours là à vous dire des conseils, vous dire tu devrais faire ci. Je m'en fous, je fais ce que je sens, et puis c'est vrai que si ça plaît pas, bon c'est pas grave, mais... Non, je m'en moque.
Le regard qui compte, en fait, c'est le vôtre.
C'est comme vous dites, cet enfant de 15 ans, je l'interroge toujours, je lui dis, est-ce que t'es toujours centré sur ce que tu dois faire? Est-ce que t'as pas fait de concession?
Qu'est-ce que ça vous arrive quand vous chantez ou quand vous jouez de la guitare, Danny, d'oublier qu'on vous regarde?
Oui, alors ça, je rentre dans un état que j'ai étudié l'autre fois, ça s'appelle l'état alpha.
C'est-à-dire... Allons donc, je connaissais le mal alpha, mais pas l'état alpha.
L'état alpha, c'est-à-dire que vous êtes dans l'inconscient, dans le... D'ailleurs, je vois, des fois, j'arrive dans des concerts, je rentre et je sors et je me rappelle pas de ce qui s'est passé pendant le concert. Je sais pas si ça vous arrivait dans des émissions.
Ah si, des blackouts. Moi, j'appelle ça des blackouts.
Voilà.
Hein. On en a eu deux, trois dans vos membres. On va pas revenir sur les émotions.
Quand on est dans cet état, je trouve que tout se déroule magnifiquement bien. Les soirées sont super. J'essaie d'arriver toujours à cet
ou
état.
Ou pas. Il peut y avoir aussi une raison pour laquelle on oublie tout.
Oui, hein. aussi.
Vous avez une guitare là, à côté de vous.
Oui.
Bah, cet instrument, comment est-ce qu'il est devenu le vôtre?
C'est mon grand-père qui a vu que j'avais un goût pour la musique, qui m'a offert une guitare. Je devais avoir 13 ou 14 ans. Et tout est parti de là, puisque avec cette guitare, j'ai été totalement autodidacte et c'est un instrument génial parce que vous pouvez vous accompagner, vous pouvez aller au lycée avec. Oui, contrairement au piano, c'est un peu compliqué.
Ça peut être plus compliqué, voilà, faut pas se mentir.
Mais donc cette guitare-là, en fait, c'est l'instrument du nomade, des gitans, des Django.
Mais vous l'avez toujours cette guitare?
Je l'ai toujours. Ouais.
C'est celle-là?
Oui, c'est celle-là.
La même que votre grand-père vous a offert?
Oui, je l'ai gardée, j'essaie de la préserver.
C'est super émouvant.
Oui, parce qu'elle porte. En fait, j'ai écrit toutes mes chansons dessus et elle porte.
Vous avez écrit Suzette dessus?
Oui.
Waouh, on est en présence de la guitare. Waouh, là il passe quelque chose là. À ce moment-là, est-ce que quand il vous l'a offerte, est-ce que vous pensiez, Danny Brion, qu'il se doutait que cet instrument vous accompagnerait toute
non,
sa vie?
Non, il a fait
toute
parce
votre
que...
vie, pardon.
Non, je pense qu'il a vu que j'étais comme tous les ados où on a toujours une propension à écouter de la musique, ça nous évade. Moi, je pensais jamais que j'allais devenir chanteur. Ça, c'est... je sais pas comment ça s'est passé.
Vous avez pris des cours quand même?
Non, j'ai pris des cours de rien. Non, pas du tout. C'est un pur hasard. C'est des rencontres. Même Suzette, c'est un pur hasard. Je l'ai écrit pour un film qui n'a pas été gardé au montage. Enfin bon, tout s'est fait en fait à mon insu. Et puis à un moment, j'ai décidé d'être chanteur. Là, j'ai travaillé. Mais pour y arriver, ça a été que des concours circonstanciels.
On en revient peut-être à l'imitation. Vous vous êtes inspiré d'autres musiciens, en fait, pour apprendre.
Oui. Oui, j'ai fait une synthèse un peu de tout ce que j'aimais. J'aimais beaucoup les rythmes latins, donc ça je l'ai pris avec moi. J'aimais beaucoup le jazz, donc ça j'ai écouté tous les crooners et aussi même les instrumentistes, hein, comme Charlie Parker. Même si ça m'a pas influencé dans la chanson, ça m'a donné une façon de flotter dans la musique. Et puis j'aime beaucoup la chanson italienne. Ça, la chanson italienne, pour moi, c'est le sommet de la mélodie. Vous savez, ça vient de l'opéra quand même, hein. J'ai fait une synthèse un peu de tout ça, la chanson même orientale. Moi, je pense que Charles disait que j'avais. Des fois, on dit que je chante un peu comme Charles parce que j'ai ce côté un peu oriental, un peu avec des bémols, des trucs comme ça. Il disait que j'étais un crooner oriental.
Mais dans cette synthèse, Danny Brion, il y avait du Brassens ou pas?
Ah oui, Brassens.
Pour la guitare.
Oui, d'abord Brassens, c'est la guitare, et puis c'est surtout la force, c'est-à-dire que Brassens, écoutez ses disques, il y a une guitare et une contrebasse, et c'est la force du texte. Et de l'interprétation et de la mélodie. Ça, c'est très puissant. Parce que moi, regardez, j'utilise 40 musiciens pour faire une chanson. Mais j'ai toujours été scotché comment, avec une guitare et une contrebasse, il a écrit des tubes incroyables.
Alors, je vous rassure tout de suite, Danny, et je rassure les auditrices et les auditeurs de France Inter. Je ne ferai pas la contrebasse. Mais vous me voyez venir. Il se trouve que pour terminer cette émission, vous avez choisi de nous jouer à la guitare un titre de Brassens. Je me suis fait tout petit. On vous écoute?
Allons-y.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour de quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qu'a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même pire. Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice. Quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre. Qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Oh, c'est tellement cool, merci tellement. Dany Briand, avec sa guitare qui chante Brassens dans le studio de Boomerang, évidemment, merci à vous. Et merci à Benjamin Troncin, ce matin à la prise de son. Je rappelle, Dany, que le deuxième volume de vos reprises de Charles Aznavour vient de paraître. Quelle joie, je dois vous le dire, de vous recevoir ce matin. Vous serez en tournée dans toute la France à partir du 6 novembre et le 4 février au Dôme de Paris, Palais des Sports. Il est 9h40 sur France Inter, l'Instant M, Sonia De Villers. Tout va bien, Sonia?
Mais oui, Augustin. Salut et à demain.